Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
On vote au Kosovo en fin de semaine. Le pays se présente comme un modèle de démocratie dans les Balkans. Des armes, un scandale libyen et la course aux Oscars dans notre revue de presse sonore. Enfin, reportage sur les traces d'une chasse à courre nouvelle génération au centre de l'Angleterre. Voilà quelques-uns des sujets dont on va vous parler dans Accent d'Europe. Petit pays d'1 600 000 habitants au cœur des Balkans, toujours pas reconnu par l'ensemble de la communauté internationale, en opposition frontale avec la Serbie qui nie son existence, le Kosovo renouvelle son parlement à la fin de la semaine. Des élections qui lui permettent de promouvoir son modèle de démocratie. Reportage à Đakova de Louis Seyé.
À quelques jours des élections, les meetings se succèdent à Đakova, une municipalité de 80 000 habitants située à l'ouest du Kosovo. Habillé en rouge et noir, Lura est venu soutenir le parti de gauche Autodétermination au pouvoir depuis 4 ans. À 21 ans, cette étudiante fait partie des 125 000 jeunes qui pourront voter pour la première fois ce dimanche.
Avec ses livres, ses films, la Serbie fait toujours beaucoup de propagande contre nous, mais ce n'est pas vrai. Vous, à l'étranger, vous y croyez et vous pensez que le Kosovo n'est pas un État démocratique, alors que c'est absolument le contraire.
17 ans après la déclaration d'indépendance de leur pays et face à une Serbie qui s'oppose toujours à sa reconnaissance, les 1 600 000 Kosovars sont fiers de leur jeune démocratie. État de droit, élections pluralistes et transparentes, démocratie locale, les responsables politiques comme les citoyens aiment mettre en avant les progrès réalisés. Ces transformations sont attendues par la population la plus jeune d'Europe, à peine 35 ans de moyenne d'âge. Ali Mouchaï, 27 ans.
La démocratie fonctionne bien mieux ici au Kosovo que dans tous les pays des Balkans. Les médias sont plus libres. Ici, pendant les campagnes électorales, tous les politiciens se font critiquer sur les plateaux de télévision, même le Premier ministre ou le gouvernement. Et il n'y a pas de sanctions ou d'arrestations de journalistes. La démocratie fonctionne.
L'organisme intergouvernemental IDEA confirme ces avancées démocratiques. Les Kosovars ont plus confiance dans leurs institutions que leurs voisins balkaniques et malgré les conservatismes patriarcaux, le Parlement est composé à 40% de femmes et le pays en est déjà à sa deuxième présidente. Sur le plan international, le Kosovo affirme régulièrement sa position pro-occidentale et son soutien à l'Ukraine. Les valeurs de liberté et de démocratie sont une évidence pour Lila, une commerçante d'une soixantaine d'années qui a grandi en France.
On est très européens, comme de mentalité, je pense. Parce qu'on a beaucoup de parents qui ont vécu en France, on a pris un peu de la France, un peu de la Belgique, tout ça. Et puis on s'intègre, on veut être européen. On ne veut pas être comme les Slaves ou les Russes. Nous, on est contre. On veut être plus européen. C'est pour ça qu'on veut un Premier ministre qui soit plus européen.
Lors des dernières élections, il y a 4 ans, le parti de gauche anticorruption a triomphé avec 48% des voix. Le scrutin comme l'alternance se sont déroulés sans tension ni difficulté particulière. Cette victoire historique a également amené la plupart des partis à se renouveler. À 53 ans, Nahim Loha est un élu local du Parti démocratique, aujourd'hui dans l'opposition. Selon lui, contrairement à ce qui se passe en Albanie, en Bosnie ou en Serbie voisine, au Kosovo, les fraudes électorales et les achats de votes sont de l'histoire ancienne.
Moi, j'ai été 3 fois d'affilée membre de la commission électorale et pas une seule fois, il n'y a eu de problème avec aucun parti politique. Donc on est vraiment un exemple de véritable démocratie avec des élections qui se déroulent sans problème, sans incident, sans violence. Les États occidentaux nous ont aidés parce qu'on sortait du communisme et on a connu aussi la guerre. Mais avec l'aide de l'OSCE, on a réussi à tenir avec succès nos élections successives.
Depuis la fin du conflit avec la Serbie en 1999, de nombreuses organisations internationales ont supervisé et soutenu le développement de la démocratie kosovare. Encore aujourd'hui, ces institutions jouent un rôle essentiel dans son bon fonctionnement. Professeur à l'université américaine de Pristina, Mark Baksin travaille depuis plus de 30 ans dans les Balkans.
Le bon fonctionnement de sa démocratie électorale est en partie dû à la présence des organisations internationales qui sont toujours dans le pays. Cela lui offre une certaine protection, mais limite aussi le pouvoir des politiciens locaux. La présence sous différentes formes de l'Union européenne et des Nations unies permet au pays d'avoir une démocratie fonctionnelle. L'état de droit est aussi plutôt respecté. Il y a des médias libres et assez divers. Les gens ont véritablement accès à différentes sources d'informations.
Donné grand favori de ces législatives, le parti de gauche nationaliste d'Albin Kurti devrait rester au pouvoir. Très populaire dans l'opinion, l'actuel Premier ministre est critiqué par ses partenaires internationaux pour son intransigeance dans le dialogue avec la Serbie. Avec une diplomatie américaine qui lui est ouvertement hostile, le second mandat de ce tribun de l'autodétermination s'annonce particulièrement difficile.
Sera le moment polonais. Le pays a pris pour 6 mois la présidence du Conseil de l'Union européenne, mais surtout il est en première ligne face à la Russie, à la guerre en Ukraine, et il est en passe de devenir la première force militaire de l'UE. Le diplomate Pierre Buller était l'invité des mardis du Grand Continent avec lequel nous sommes partenaires. Juliette Garbrand lui a demandé pourquoi son pays avait aujourd'hui un rôle aussi central face à la guerre avec la Russie.
Il se trouve que la Pologne a une longue histoire avec la Russie. Elle a été occupée par ce pays dans ses différentes incarnations, tsariste ou soviétique, pendant 170 ans. Ça laisse des traces dans les mémoires, dans la chair de Pologne. Et elle considère qu'elle a aussi un rôle d'alerte face aux menées du Kremlin vis-à-vis des pays plus à l'ouest de l'Europe qui sont beaucoup moins sensibles à cette menace ou qui l'ont souvent sous-estimée. Les Polonais ont vraiment sonné l'alerte depuis des décennies et peuvent dire aujourd'hui, ben voilà, nous vous l'avions dit.
Ils avaient raison dès 2008.
Ils avaient raison dès 2008 où Kaczynski, le président Kaczynski était allé à l'époque en Géorgie, hein, vous faites allusion donc à cette agression russe contre la Géorgie. Il avait dit, ben oui, aujourd'hui la Géorgie, demain l'Ukraine, puis les Pays-Baltes et après ça sera peut-être le tour de mon pays, la Pologne, 2008.
Et aujourd'hui, vous l'écrivez, la Pologne est une clé de voûte de la sécurité européenne, militairement notamment.
Avant Donald Tusk, le parti droit et justice, prenant conscience de ce risque, avait décidé de doubler pratiquement les dépenses militaires. La Pologne donc est passée en l'espace de 2 ans de 2% à 4% du produit intérieur brut, c'est colossal. Et en 2025, le niveau devrait être de 4,7% du produit intérieur brut et avec la moitié de ses dépenses de défense consacrées à de l'acquisition d'armement et d'équipement, ce qui est beaucoup plus que ce qui est recommandé par l'OTAN. Et elle considère que ce n'est qu'en s'armant qu'on peut se préparer à toutes les éventualités, et y compris d'ailleurs en érigeant des dispositifs défensifs face à la frontière avec la Russie et la Biélorussie. Et donc la Pologne se retrouve pratiquement aujourd'hui avec une armée de 200 000 hommes, c'est-à-dire l'équivalent de la France, plus que l'Allemagne. C'est le troisième budget militaire de l'Union européenne, avant même l'Italie.
Ce moment polonais, pour y revenir, c'est aussi celui du retour de Donald Tusk au pouvoir. Simplement, le pays reste très divisé. Ce changement de gouvernement à Varsovie, vous le voyez comme un signe d'espoir ou vous redoutez sa fragilité ?
Je dirais que nous sommes dans une situation assez très fluide, très liquide. Nous avons une tornade de l'autre côté de l'Atlantique, un personnage qui s'appelle Trump, qui manie quand même des thématiques qui ont une résonance, notamment dans les formations nationales populistes, partout en Europe, hein, pas seulement en Pologne, qui se sentent au fond confirmés dans leurs convictions et dans leurs choix par ce qui se passe aux États-Unis. Donc, nous sommes encore à 2 ans et demi des prochaines élections législatives. Il y a une élection quand même, il y a une élection présidentielle le 18 mai en Pologne. Le président a peu de pouvoir, mais il a un pouvoir de veto. Il se trouve qu'aujourd'hui, le candidat de la coalition est très devant le candidat du Parti droit et justice. Mais très difficile de dire, et pas seulement en Pologne, ailleurs aussi, très difficile de dire ce qui va se passer. C'est comme un kaléidoscope, vous voyez, on tourne un petit peu et ça change complètement le paysage.
Et le livre de Pierre Buller, Pologne, histoire d'une ambition, est publié chez Talendier. On a beaucoup parlé de défense entre dirigeants européens en début de semaine à Bruxelles. Même le Premier ministre britannique Keir Starmer avait fait le déplacement. Il y a urgence à mettre en place une capacité de production européenne d'armement pour ne pas tout acheter aux Américains. Mais dans votre revue de presse européenne, Franceline Beretti, vous avez vu que bien d'autres débats viennent se greffer sur ces questions de défense.
Le problème de fond est que l'armée et l'industrie militaire ont des places différentes dans chaque pays. En Allemagne, par exemple, on s'inquiète du danger démocratique que pose l'augmentation du budget militaire. Table Today se rassure sur l'état d'esprit au sein de l'armée.
Je crois qu'en Allemagne, nous avons pour le moment une situation plutôt bonne avec notre armée parce que la démocratie fait partie de son ADN. Beaucoup de gens connaissent l'expression d'armée parlementaire, c'est-à-dire qu'un président ou un chancelier ne peut pas dire aux forces armées ce qu'elles doivent faire. Beaucoup de gens connaissent aussi l'expression citoyen en uniforme, ce qui signifie qu'un soldat ne doit pas obéir à tout prix aux ordres au risque d'être cruel. C'est un héritage du national-socialisme.
Le régime nazi et sa puissante armée au service de l'idéologie du Troisième Reich ont traumatisé l'Allemagne. Et il faut bien constater que pour Berlin, le changement d'époque géopolitique est encore très compliqué. Dans une interview à la revue Le Grand Continent, le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, souligne d'ailleurs à quel point les discussions sont compliquées au sein de l'OTAN, entre alliés, chacun ayant ses problèmes. Si Berlin a du mal à recruter des militaires, au contraire, les Pays-Bas regorgent de nouvelles recrues. Il explique qu'il n'y a que quelques centaines de postes vacants dans l'armée et 5 à 10 fois plus de candidats pour certains postes.
Et en Italie, l'affaire Osama al-Masri fragilise le gouvernement.
Ce haut responsable policier libyen est accusé de torture, de viol et d'assassinat. Il a été arrêté fin janvier à Turin et faisait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Pourtant, il a été relâché, puis rapatrié en Libye dans un avion militaire. La justice italienne a ouvert une enquête à l'encontre de la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, et de ses ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, ministres qui se sont expliqués devant le Parlement hier. Mais pour l'éditorialiste du Corriere della Sera, c'est à Meloni d'avoir le courage d'expliquer son geste aux Italiens.
Le problème ici, c'est qui a pris cette décision. C'est elle qui a dû la prendre, pour une affaire aussi importante. Ces journaux parlent d'une raison d'État se référant à des accords antérieurs. Qui, où, quand, quoi? C'est vrai, nous avons fait un pacte avec la Libye? Je voudrais le savoir, je n'en sais rien.
Derrière cette décision de protéger un tortionnaire, il y aurait un pacte migratoire, soupçonne une partie de la presse. C'est ce que Meloni n'a visiblement pas envie d'éclaircir. Le gouvernement rétorque que le mandat d'arrêt de la CPI était mal rédigé.
Et enfin, Franceline, dans la course aux Oscars, la presse raconte l'histoire d'un crash.
Celui de la transsexuelle Carla Sofia Gascón, nommée dans la catégorie « meilleure actrice » pour Emilia Pérez. Sauf que ses anciens tweets ont été exhumés. L'artiste y critique l'islam, les musulmans, des déclarations qui font tache dans les paillettes hollywoodiennes. Elle a tenté de se rattraper sur CNN.
J'ai été traitée de raciste, une chose que je ne suis absolument pas. Je pense que j'ai été jugée, été condamnée, sacrifiée, crucifiée et lapidée sans procès et sans possibilité de me défendre ces derniers jours.
Malgré sa prestation remplie d'émotions, boule dans la gorge et larmes aux yeux, ses chances d'obtenir le prix sont plombées, commente le Guardian. Le quotidien britannique fait d'ailleurs la liste des grands favoris aux Oscars qui se sont tirés une balle dans le pied dans le passé. Le réalisateur Martin Scorsese, dont la maison de production avait corrompu un critique. Ou encore le film Zero Dark Thirty, long-métrage de Catherine Bigelow sur la traque d'Oussama Ben Laden. Il a été accusé de complaisance envers la CIA. Qui sait, peut-être que Carla Sofia Gascón s'en tirera malgré tout. Réponse le 3 mars.
Merci beaucoup Franceline, à la semaine prochaine. C'est une image qui nous ramène aux traditions de la noblesse rurale de l'Angleterre de toujours. La chasse à cour, ses rites, ses meutes de chiens, ses costumes. Pour l'essentiel, il s'agit d'une chasse au renard qui est interdite depuis 2004 dans le pays. Mais les chasseurs continuent de faire comme si, avec des leurres, des odeurs de renards disséminées dans la forêt, les cavaliers font semblant de chasser pour continuer la tradition. C'est le reportage de Marie Billon dans le Leicestershire.
Ce ne sont qu'à des occasions spéciales que la foule se rassemble dans le centre de Bistock pour voir les chasseurs. Ils étaient des centaines de curieux.
J'ai grandi à la campagne, j'aime la campagne et le fait qu'on se retrouve tous. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la chasse aux renards. Ils vont juste galoper un peu.
Nous apprécions la tradition. Les enfants aiment voir les chiens. Nous sommes des amoureux des animaux, nous vivons à la campagne et c'est l'une de ces traditions campagnardes que nous essayons de transmettre et de faire découvrir aux enfants. C'est surtout le spectacle qui nous plaît. Nous ne sommes pas de grands amateurs de chasse. Nous aimons voir les costumes et les animaux, mais nous ne sommes pas très fans de la chasse elle-même. Pour être honnête, cela ne me dérangerait pas si elle n'existait plus, ça a fait son temps. C'est l'une des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Mais je respecte les gens de la campagne qui veulent continuer. Il est possible de perpétuer une partie de la tradition et du spectacle sans faire de mal aux animaux.
Parmi la foule, on est là pour le spectacle et on ne se sent plus coupable depuis que chasse ne signifie plus tuer. Les chiens suivent une odeur artificielle et les chasseurs sont censés retenir la meute si elle se met à suivre un vrai renard. Même si selon les associations de protection, il y a parfois des incidents, ce n'est pas ce que retiennent les curieux.
Le trail hunting, la chasse au leurre est parfaite, elle fonctionne très bien. Et maintenant nous avons plus d'enfants qui chassent que jamais auparavant. Ils veulent être sur leur poney, sauter, galoper, parcourir la campagne. C'est merveilleux, merveilleux.
Interdite par le gouvernement travailliste de Tony Blair en 2004, la chasse aux renards n'a aucune chance d'être réintroduite par l'actuel gouvernement travailliste de Keir Starmer, au grand dam de Richard, chasseur.
J'aimerais que ce soit comme avant, mais je ne pense pas que cela soit très probable avec un gouvernement travailliste. En tout cas, je ne veux surtout pas que la situation empire. Tuer en soi ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est galoper à travers la campagne. Et pour les chevaux, c'est ce qui se rapproche le plus d'une vraie horde, d'un troupeau. Ils adorent ça et c'est en partie ce qui a fait de l'Angleterre le pays qu'il est.
Mais puisque c'est un spectacle, parlons-en. Richard a 77 ans. Il chasse depuis qu'il a 60 ans. C'était ça ou le golf, dit-il, pour sa retraite. Il est l'un des premiers chasseurs arrivés sur la place du village, sur sa monture. Lui porte un veston noir, comme la plupart des cavaliers qui arrivent derrière lui. Les femmes portent plutôt du bleu marine. Parmi cette marée de cavaliers, ils sont plus d'une trentaine, accompagnés d'encore plus de chiens de chasse. Deux hommes se démarquent. Eux ont une veste rouge.
Je m'appelle Dirk Ockridge et je suis l'un des maîtres de la chasse qui se nomme la Pitchley with Woodland Hunt. Mon travail consiste à diriger la chasse et à organiser la journée, en amont, en allant voir les agriculteurs et les propriétaires terriens pour nous assurer de notre parcours, et puis aussi tracer des pistes et superviser l'installation du leurre que nous allons poursuivre toute la journée. Et puis nous traçons des pistes. Nous suivrons donc un sentier très similaire à ce qu'il était avant l'interdiction et nous essayons de reconstituer la chasse aux renards grâce à un parfum artificiel.
Un peu moins de timidité de la part de l'autre maître de la chasse. Il fait un discours pour remercier la foule et envoie un pic d'éperon au gouvernement travailliste.
La campagne semble un peu attaquée en ce moment, mais l'Angleterre rurale, la Grande-Bretagne rurale, est aux côtés de nos agriculteurs. Et si nous pouvons envoyer un message à M. Starmer, au Parlement, nous n'irons nulle part. Nous serons là l'année prochaine comme l'année suivante.
La plupart des chasseurs s'accommodent de cette législation, certains s'en plaignent. La campagne Hunting Kind, par exemple, demande à ce que les chasseurs soient considérés comme une minorité à protéger pour que leurs droits ne soient pas plus reniés dans le futur.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Théo Raison. Retrouvez-nous en podcast sur notre site et sur l'application Pure Radio et les réseaux sociaux. À bientôt.